France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Le changement climatique est une arnaque. Les pays européens vont en enfer à cause de leur politique migratoire. Quelques-unes des déclarations de Donald Trump tout à l'heure à la tribune de l'ONU. Le président américain qui a violemment attaqué les Nations Unies. Nous serons à New York dans un instant. Israël ferme le poste frontière d'Allenby, isolant un peu plus la Cisjordanie. Aucune explication à Jérusalem, mais il pourrait s'agir de représailles après la reconnaissance à l'ONU de la Palestine par plusieurs pays occidentaux, dont la France. Une rentrée sous le signe de la polémique pour l'enseignement catholique. La CFDT dénonce des cours d'éducation à la vie sexuelle et affective confiés à des associations hostiles à l'avortement. Les explications à suivre d'Hakim Kasmi. France Télévisions dans le rouge, un budget en déficit de 40 millions d'euros cette année. La Cour des comptes pointe dans un rapport une situation financière critique pour la télévision publique. Donald Trump a effectué tout à l'heure un retour tonitruant à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président américain a multiplié les attaques contre les Nations Unies, justement. Immigration, changement climatique, guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien. Le locataire de la Maison-Blanche a passé en revue presque toutes les crises mondiales du moment. On retrouve au siège de l'ONU à New York Franck Madvon.
On sait que Trump n'est pas un allié du multilatéralisme, mais les dirigeants, les délégués présents ici aux Nations Unies ne s'attendaient sans doute pas à une attaque aussi violente contre l'ONU. C'est allé du téléprompteur, des escalators qui ne fonctionnent pas à l'ONU, à l'inaction supposée de l'institution face au conflit. Donald Trump a vanté son bilan, le fait qu'il a pu stopper cette guerre, ce qui est largement contesté. Pour souligner à quel point les Nations Unies sont inefficaces, l'ONU produit des mots creux qui ne résolvent pas les conflits, dit-il, et ce n'est pas
Non seulement les Nations Unies ne règlent pas les problèmes, mais en plus, trop souvent, elles en créent de nouveaux. Et nous devons les résoudre. Les Nations Unies financent une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. En 2024, l'ONU a budgétisé 372 millions de dollars pour soutenir 624 000 migrants se rendant aux États-Unis. Ce qui s'est passé est totalement inacceptable. L'ONU est censée arrêter les invasions, pas les créer, pas les financer.
Longue sortie de Trump dans la foulée sur l'immigration clandestine présentée comme une menace majeure pour les pays occidentaux, en particulier pour l'Europe. Vos pays vont en enfer s'ils ne contrôlent pas l'immigration.
Franck Mathevon à New York avec Benjamin Reyes pour les moyens techniques. Pendant ce temps-là, au Proche-Orient, Israël poursuit son implacable politique de représailles. L'État hébreu a décidé aujourd'hui de fermer jusqu'à nouvel ordre le poste frontière d'Allenby dans la vallée du Jourdain, le principal point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie. C'est aussi par là que passe l'aide humanitaire pour Gaza. Cette fermeture annoncée intervient quelques jours après le meurtre de deux soldats israéliens qui gardaient le poste frontière. Elle complique davantage les déplacements des Palestiniens de Cisjordanie. Étienne Moulin.
Aucun politique israélien n'a expliqué cette décision, mais elle pourrait être interprétée comme un premier geste de rétorsion du Premier ministre israélien après la reconnaissance de la Palestine par la France. Le poste frontière d'Allenby est situé dans la vallée du Jourdain. Il est vital pour les Palestiniens. Il permet de sortir du pays pour aller à l'aéroport d'Amman en Jordanie. Il est le point de passage des marchandises, des évacuations sanitaires et il permet l'entrée de l'aide humanitaire en direction de Gaza. Les Palestiniens ne peuvent pas se rendre de l'autre côté à l'aéroport israélien de Ben Gurion. La fermeture du point de passage d'Allenby signifie donc la fermeture hermétique de la Palestine. Le poste frontière est contrôlé par les Israéliens. Ils le ferment régulièrement au début des fêtes juives. Mais d'après les Palestiniens, le geste d'aujourd'hui est assez inédit. Allenby avait déjà été fermé la semaine dernière après une attaque d'un chauffeur jordanien qui avait coûté la vie à deux soldats israéliens. La décision d'interdire les passages jusqu'à nouvel ordre complique encore les déplacements en Cisjordanie qui sont de plus en plus entravés par les fermetures de villages et les contrôles.
Étienne Monin, envoyé spécial de France Culture en Cisjordanie. La mobilisation pro-européenne continue en Géorgie. Cela fait désormais 300 jours que des centaines de manifestants se rassemblent quotidiennement devant le Parlement à Tbilissi pour dénoncer la dérive autoritaire du régime pro-russe. Tout a commencé le 28 novembre dernier lorsque le Premier ministre Irakli Kobaridze a annoncé le gel des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Des dizaines de milliers de Géorgiens étaient alors descendus dans la rue pour exprimer leur colère. Aujourd'hui, les manifestations s'essoufflent à quelques jours d'élections municipales boudées par l'opposition. Mais la détermination est toujours là, comme a pu le constater à Tbilissi notre correspondant Théo Bourgerie-Gonze.
Mariam, 23 ans, est de toutes les manifestations. Elle a mis sa vie professionnelle entre parenthèses depuis 10 mois. Aujourd'hui, elle est combative mais épuisée.
Cela représente la résistance et la force de notre mouvement. Nous n'arrêterons pas de nous battre. Le gouvernement qui est responsable de cette crise pensait que les manifestations ne dureraient pas plus d'un mois. Mais nous sommes toujours là. Toutefois, on a beau se dire que ça fait 300 jours qu'on occupe les rues, qu'on manifeste, mais dans les faits, rien ne change.
Pire, la dérive autoritaire du rêve géorgien, le parti au pouvoir sous influence russe, ne fait qu'empirer depuis les élections parlementaires d'octobre dernier. Deux leaders de l'opposition ont encore été arrêtés la semaine dernière. Ils sont aujourd'hui une petite dizaine à être en prison. 35 manifestants sont aussi placés sous écrou. Certains purgent des peines de 8 ans. L'exécutif fait le pari de l'épuisement, estime David Djindjaradze, chercheur en sciences politiques et cofondateur du parti d'opposition Freedom Square. Selon lui, l'adoption de sanctions par l'UE contre les membres du gouvernement pourrait aider le combat des manifestants.
Le rêve géorgien espère peut-être organiser de nouvelles élections une fois l'opposition quasiment détruite pour cimenter son autoritarisme. Les manifestants, eux, veulent remplacer le gouvernement au plus vite. Les sanctions montreraient aux Géorgiens que l'UE ne les oublie pas. Mais sanctionner sans réelle résistance civile n'est pas suffisant pour changer de régime.
Des sanctions pour l'instant bloquées à Bruxelles, la Hongrie et la Slovaquie, proches de Moscou, mettent leur veto.
Théo Bourgerie-Gonze, correspondant en Géorgie. L'OTAN appelle la Russie à cesser l'escalade avec les pays de l'Alliance Atlantique. La liste des incursions s'allonge depuis plusieurs jours. Les drones russes en Pologne, les avions de chasse du Kremlin dans le ciel estonien. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, adresse une mise en garde à Moscou. L'Alliance ouvrira le feu sur les appareils qui violeront son espace aérien en fonction des renseignements disponibles concernant la menace posée, a précisé Mark Rutte. S'agissant des drones qui ont survolé hier soir l'aéroport de Copenhague, l'OTAN affirme qu'il est trop tôt pour dire si la Russie est impliquée. La première ministre danoise Mette Frederiksen avait dénoncé une grave attaque après ce survol qui a paralysé pendant plusieurs heures l'aéroport. Une rentrée sous le signe de la controverse pour l'enseignement catholique qui tenait une conférence de presse ce matin. Il y a bien sûr l'affaire Betaram qui a éclaboussé l'institution. Mais il y a maintenant le nouveau programme EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Le CEP-CFDT, syndicat de professeurs du privé, a révélé que certains établissements avaient recours à des associations non agréées pour ce programme, avec à la clé, Hakim, des positions contre l'avortement.
Oui. Pour justifier cette décision, le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique joue la carte de l'ambiguïté, en expliquant que ces séances d'EVARS, en présence des parents, ce qui n'est pas autorisé normalement par le ministère de l'Éducation, se faisaient en dehors des heures de cours, alors que normalement, elles doivent être réalisées par des enseignants ou bien par les associations agréées, ce qui n'est pas le cas de Cyclocho, cette association que dénonce la CFDT, Guillaume Prévost, le secrétaire général de l'enseignement catholique.
L'éducation nationale n'est pas l'alpha et l'oméga de la puissance publique dans ce pays. Heureusement, il y a des associations qui interviennent localement, dans le cadre de conventions avec la mairie. Il y a des retraités du Cantal qui se mobilisent pour faire de la découverte des métiers. Ils n'ont pas besoin d'être agréés par l'éducation nationale. Il y a une entreprise qui se mobilise pour faire de la découverte de l'entreprise et des visites de plateaux techniques. Il n'a pas besoin d'être agréé par l'éducation nationale. Encore une fois, sur ces sujets infiniment délicats, ne cédons pas à cette tentation bien française de vouloir un jardin bien ordonné dans lequel les enfants n'ont nulle part où jouer.
Hakim, Guillaume Prévost s'est aussi déclaré favorable à ce que les professeurs puissent faire, s'ils le souhaitent, des prières en classe avec leurs élèves.
Oui, Stanislas, il fait valoir la liberté pédagogique et précise que dans la mesure où les professeurs qui travaillent dans les écoles privées sous contrat ne sont pas des fonctionnaires, ils ne sont donc pas, selon lui, soumis au devoir de neutralité de l'État, sauf que ces mêmes enseignants, Stanislas, sont payés par l'État. Guillaume Prévost.
Moi, je vois pas de différence fondamentale entre faire une prière et calme et serein comme la grenouille. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'on est en train de dire qu'en fait, les enseignants peuvent faire du yoga, qui relève d'une pratique spirituelle, et pas une prière. Alors je comprends dans l'enseignement public, parce que l'enseignement public est laïque, mais nous, l'enseignement catholique n'est pas laïque, c'est un enseignement catholique.
Contacté, le ministère de l'Éducation, qui planche actuellement sur la question, n'a pas encore pu nous apporter de réponse précise sur ce point. Rappelons enfin que l'enseignement catholique représente 2 millions d'élèves actuellement, soit pratiquement 20% des effectifs.
Hakim Kasmi, spécialiste des questions d'éducation à la rédaction de France Culture. Les accusés ont la parole aujourd'hui au procès des trois revenantes de Syrie devant la cour d'assises spéciale de Paris. Trois femmes qui avaient rejoint l'État islamique avant d'être emprisonnées dans les camps du nord-est syrien contrôlés par les Kurdes. Elles sont jugées pour association de malfaiteurs terroristes et abandon moral car elles avaient emmené leurs enfants avec elles. L'une de ces femmes, Jennifer Klein, est la nièce des frères Klein, les deux djihadistes français qui avaient revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 à Paris au nom de Daesh. Rapatriée en France en 2019, Jennifer Klein est actuellement en détention. Elle dit avoir rompu avec l'idéologie djihadiste et son récit a plongé la cour dans l'enfer du califat syrien instauré par le groupe État islamique. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
Durant 4 heures, elle déroule un récit transparent, debout dans le box des accusés, voix fluide et cristalline qui contraste avec l'enfer qu'elle décrit. D'abord Raqqa, où elle arrive en 2014 avec son mari et leurs 4 enfants, une 5e petite fille naîtra sur place. C'était horrible tout ce qui se passait, déshumanisé. Juste en bas de chez moi, des têtes, des corps, un écran géant où l'on projette des décapitations, les enfants ont tout vu. À ce moment-là, je ne me demande même pas si cela peut les choquer. Je suis totalement hermétique à toute pensée contraire à Daesh, totalement conditionné. Oui, j'étais d'accord avec ce qui se passait, répète Jennifer Klein. Les attentats de 2015 en France, c'est la première fois où je me suis sentie mal. Mais pour moi, c'était la loi du talion. De la légitime défense djihadiste, risque l'avocat général. Oui, je pense. Et quand vous fuyez Raqqa, l'État islamique, vous n'abandonnez pas tout ce projet djihadiste? Non, répond l'accusé. L'idéologie est toujours là. Après, il y aura les camps où elle et ses compagnes se disent irakiennes, puis algériennes pour ne pas rentrer en France, des rumeurs de pédophilie, beaucoup de violence entre les enfants et leurs cousins. Alors Jennifer Klein cuisine, ses donuts vont lui permettre de payer le loyer d'une maison indépendante jusqu'au jour où ils sont arrêtés. Mon fils de 12 ans, tabassé, poursuit-elle en larmes, reprend son souffle. Jusqu'à mon retour en France, je n'ai jamais pensé par moi-même. Aujourd'hui, tous les rapports spécialisés livrent des avis favorables, un accompagnement qu'elle souhaite poursuivre une fois sortie de prison. Cela m'a confirmé que j'avais le droit d'être musulmane et pas pour autant terroriste.
Florence Turm depuis la cour d'assises spéciale de Paris. Le verdict dans ce procès des revenantes est attendu vendredi. On l'a appris tout à l'heure, la mort de Ziad Takieddine, l'homme d'affaires franco-libanais, avait 75 ans. Il était au cœur de l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Ziad Takieddine avait notamment affirmé avoir transporté 5 millions d'euros en espèces de la Libye vers la France via des valises remises à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy. En 2020, il s'était partiellement rétracté. Le jugement de Nicolas Sarkozy dans cette affaire est d'ailleurs attendu jeudi. Dans l'actualité économique, CMA-CGM poursuit son développement tous azimuts. Le géant marseillais du transport maritime et de la logistique a déjà bâti un empire médiatique avec BFM TV, La Provence ou le média en ligne Brut. Le groupe de Rodolphe Saadé élargit maintenant ses activités au transport ferroviaire. CMA-CGM vient d'annoncer le prochain rachat du leader britannique du secteur. Les explications de Camille Magnard.
L'affaire est sur les rails et devrait aboutir au début de l'année prochaine. Le géant français du transport maritime va donc devenir leader du ferroviaire outre-Manche en rachetant la société Freightliner UK Intermodal Logistics et son chiffre d'affaires d'environ 345 millions d'euros. Le maître mot, c'est donc bien intermodal, puisqu'avec cette acquisition, CMA-CGM confirme qu'elle ne se cantonne plus seulement au transport en mer, mais veut contrôler toute la chaîne logistique. Des navires, donc, aux trains de marchandises, en passant par les ports et la logistique jusqu'au service de livraison de colis. Le groupe basé à Marseille a multiplié les rachats de sociétés en ce sens ces dernières années et se diversifie aussi géographiquement, s'implantant en Turquie au printemps dernier, renforçant sa présence aux États-Unis ou donc en Grande-Bretagne bientôt. CMA-CGM est présent sur tous les continents. Cette stratégie d'acquisition tous azimuts est rendue possible par les bons résultats du groupe, groupe qui affichait au deuxième trimestre de cette année un chiffre d'affaires stable à 11 milliards d'euros et qui cherche à investir cet argent dans d'autres secteurs que son cœur de métier, le transport maritime, car celui-ci se montre de plus en plus incertain avec les taxes douanières américaines qui freinent les échanges internationaux et les tensions géopolitiques qui compliquent le trafic des bateaux, notamment en mer Rouge et au Moyen-Orient.
Le plan social prévoyant près de 2400 suppressions d'emplois chez Auchan a été invalidé aujourd'hui par le tribunal administratif de Lille. Décision qui pourrait permettre in fine des indemnisations supplémentaires pour les salariés concernés, mais elle n'augure pas d'une réintégration des salariés licenciés. Malgré des audiences au beau fixe, France Télévisions est aujourd'hui dans une situation financière critique. C'est la Cour des comptes qui l'affirme dans un rapport présenté aujourd'hui. Son président, Pierre Moscovici, ici évoque une situation qui n'est plus soutenable, qu'une entreprise normale ne pourrait tolérer. Pour la première fois de son histoire, France Télévisions affiche d'ailleurs en 2025 un budget en déficit de 40 millions d'euros. Fiona Mogadam, bonsoir.
Bonsoir.
La Cour des comptes en appelle notamment à la tutelle, c'est-à-dire au gouvernement, pour redresser la situation, Fiona.
En adoptant une trajectoire financière réaliste et un contrat d'objectifs et de moyens sans délai, alors que des décisions contradictoires sur le budget ont été prises dernièrement par la tutelle. Mais c'est bien sur France Télévisions que repose l'essentiel de l'effort à travers des réformes structurelles à engager. La Cour des comptes souligne par exemple des effectifs en baisse de 10% en 6 ans, mais une masse salariale qui, elle, ne baisse que de 2% environ. En cause, les salaires, il y a l'inflation, mais aussi l'ancienneté des salariés qui jouent. Certains frais de fonctionnement sont aussi pointés du doigt, frais de mission, voitures de fonction. Pour la Cour des comptes, il faut en parallèle investir encore plus dans le numérique et opérer un rapprochement entre France 3 et ici les locales de Radio France. Le plus urgent étant de renégocier l'accord d'entreprise pour permettre la polyvalence des métiers et s'adapter aux usages. Ce sont toutes les dispositions de l'accord qui sont remises en cause pour Pierre Mouchel, représentant CGT.
Nécessité de faire des polyvalences partout pour diminuer le nombre d'emplois. Des salaires soi-disant trop élevés, des indemnités trop généreuses en cas de licenciement et tout un tas de choses sur la rémunération des pénibilités puisqu'on travaille 7 jours sur 7, il y a du travail le week-end, il y a une nécessité de travailler sur la durée pour assurer des retransmissions d'événements. Tout ça, ce sont des formes de pénibilité qui sont compensées dans notre accord. Donc je vois pas pourquoi on remettrait ça en cause, si ce n'est d'avoir une vision totalement antisociale de la couverture sociale pour les salariés.
En juillet dernier, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a déjà dénoncé l'accord d'entreprise. Dans un communiqué, France Télévisions déclare aujourd'hui souscrire intégralement aux recommandations de la Cour des comptes et en appelle à l'État pour lui permettre de concilier missions et moyens.
Fiona Mogadam. Le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris a lancé ce matin sa saison 2025-2026. Une nouvelle saison qui ne devrait pas être impactée par les récents déboires de l'institution. Une cyberattaque qui a paralysé ses systèmes de gestion en juillet et un cambriolage d'ampleur la semaine dernière. La direction du muséum l'assure. Les expositions et les travaux programmés vont se tenir dans les délais, Pierre Repère.
Entre une cyberattaque fin juillet et un cambriolage mi-septembre, Gilles Bloch, le président du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, le concède. Pour l'institution, l'été a été mouvementé.
On est quasiment revenu à la normale sur l'accueil des visiteurs physiques. Après, le travail qui n'est pas directement tourné vers le public est impacté par la cyberattaque, essentiellement à travers notre chaîne de dépenses qui est ralentie. Ça explique qu'on a annulé certains événements les moins impactants pour le public. Et puis, les autres activités du muséum, la recherche, le travail sur les collections, sont aussi impactées parce que les outils de travail sont en partie indisponibles. Et le rétablissement complet de l'accès aux données, c'est plutôt la rentrée de janvier 2026.
En dépit de cette cyberattaque, Gilles Bloch estime que l'année 2025 a de bonnes chances d'être la meilleure jamais connue pour le muséum en termes de fréquentation. Et ce, malgré la fermeture temporaire de la galerie de minéralogie après le vol de plusieurs pépites d'or.
On a des systèmes qui ont été audités en mai 2024. À l'époque, rien de flagrant n'avait été détecté. On va travailler à renforcer la sécurité. Et puis, c'est l'occasion de regarder dans les mois qui viennent, avec un œil un petit peu plus acerbe, l'ensemble des sites du muséum.
Malgré ces contretemps, le muséum, lui, poursuit ses missions. Après le succès de ses expositions nocturnes en voie d'illumination au Jardin des Plantes, une nouvelle exposition de nuit ouvrira ses portes dès le 12 novembre. Elle mettra cette fois à l'honneur les lumières de la nature, notamment la bioluminescence.
Pierre Ropert, merci. Un mot du temps demain, frais et humide sur la plupart des régions, de la neige sur les Alpes des 1700 mètres d'altitude, des éclaircies et même du soleil sur la façade ouest et sur le pourtour méditerranéen. Les températures minimales iront de 3 à 17 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun, à la technique Nicolas Bonnet.